Nous avons choisi, après les enseignements, les trois enseignements sur le discernement spirituel. Discernement spirituel, on peut dire que c'est l'activité essentielle de toute forme d'accompagnement, d'aide, qui est d'abord là pour aider la personne à s'orienter dans sa vie, d'aider à faire les bons choix. Après avoir vu le discernement spirituel, nous allons toucher la question du combat spirituel. C'est évident que dans le discernement spirituel, la question du combat spirituel se pose et d'un discernement par rapport à, je dirais, déjà de discerner le vrai combat. Et de comprendre l'engrenage dans lequel les personnes peuvent être prises à leur insu. On peut aider une personne sans voir les tentations profondes qui sont les siennes, les failles profondes qui sont dans sa vie. Et donc, on peut beaucoup... je dirais, élaborer et de fait apporter une aide concrète, mais si c'est sur un terrain miné, un moment ou un autre, la faille, elle fait que la maison s'écroule. Et donc, être conscient de la réalité du combat spirituel dans la vie, être conscient de la réalité de ce combat d'abord dans notre propre vie, être conscient que la vie est un combat. Si nous ne voulons pas travailler pour rien, c'est vraiment essentiel. Pour vous donner un exemple très, très simple, quand j'étais tout jeune prêtre à Tibériade, il y a des personnes que j'ai voulu aider, mais l'une d'elles avait fait un pacte avec le démon. Elle était vraiment possédée, elle était vraiment inspirée par lui, parce que c'était... Elle était dedans, mais elle ne laissait extérieurement rien paraître. Ben, tout l'aide que je pouvais apporter à cette personne était déviée à la base. Et j'ai mis du temps à ouvrir les yeux. Bon. Donc, quand saint Paul dit « Nous combattons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes », il nous invite donc à être vigilants pour, je dirais, discerner le véritable combat qui est amené avant les autres combats. Et ce véritable combat, c'est le combat spirituel, c'est-à-dire le combat contre le démon. Alors c'est vrai que traditionnellement, on distingue trois ennemis dans le combat spirituel. Le démon, la chair et le monde. Quand on dit la chair, c'est notre humanité avec des tendances désordonnées liées au péché originel et puis liées aussi aux blessures. Et puis le monde, ben c'est le monde aussi en tant qu'il est blessé par la réalité du péché et qu'il est animé par l'esprit du monde qui nous éloigne de Dieu. Au sens, Saint Jean dit qu'on ne peut pas à la fois aimer Dieu et le monde. Mais j'ai trouvé chez Vincent de la Croix une belle expression qui confirme l'expérience que je peux avoir, c'est que en définitive, c'est le démon qui mène le jeu quand même. Saint Jean de la Croix dit que il prend escorte et renfort. Il est escorté donc et renforcé par les deux autres ennemis, le monde et la chair, pour faire une forte guerre à l'âme. Donc, on trouve autour de nous des personnes qui sont dans un mauvais esprit et qui vont essayer d'une manière ou d'une autre de nous détourner. Elles sont du monde et elles cherchent à nous détourner de Dieu et à nous entraîner dans l'esprit du monde. Mais en définitive, celui qui mène le jeu, c'est pas ces personnes, c'est le malin. Alors, je vais insister sur le combat avec le démon. Dans la fois prochaine, on verra davantage les armes qu'on peut utiliser. Peut-être qu'on élargira davantage la perspective, mais je pense qu'on ne se trompe pas en mettant en premier la question de l'action du démon. Il nous faut revenir à la tentation originelle. C'est de comprendre la manière dont le démon cherche à nous détourner de Dieu. Et on ne peut pas revenir à la tentation originelle sans revenir à notre condition première de créature, appelée à une destinée divine. Puisque dès avant la fondation du monde, Dieu nous a voulu comme ses fils adoptifs dans le Christ. C'est ce qu'on appelle la prédestination. C'est la décision que Dieu a prise avant la création elle-même, avant de créer le monde, de se donner, de se communiquer à l'homme en l'introduisant dans sa vie divine par le Fils fait homme. Pourquoi l'Église nous dit que cette prédestination de l'homme, au moment où l'homme a été créé dans cette prédestination, sa vie a été une épreuve dès l'origine. Avant qu'il y ait la chute, il y avait de toute façon un état qui était un état d'épreuve. Pourquoi? Parce que la réalisation de cette prédestination passe nécessairement par l'engagement de la liberté de la personne. Parce que c'est une vocation à l'amour et que l'amour est libre. Dieu, comme disait Jean-Paul II, a pris le risque de créer des créatures libres. Il les a créées libres précisément pour les rendre capables de sa vie divine et en même temps, il prenait un risque. Et il mettait l'homme en état d'épreuve. L'épreuve de sa liberté. Prendre conscience qu'il y a une épreuve originelle, si je peux dire. Et comment on pourrait la décrire, cette épreuve originelle? Avant la tentation originelle. C'est que l'homme est appelé à une divinisation, divinisé, à être élevé à la hauteur de Dieu. Prendre une expression de Benoît XVI, ça m'appelait à devenir semblable à lui, mais que ce devenir semblable à Dieu n'est possible que par un seul chemin, celui du Fils bien-aimé, qui est celui d'une dépendance totale au Père, d'une obéissance totale au Père. Celui de la filiation. On ne devient comme Dieu qu'en devenant fils de Dieu. C'est-à-dire, en fait, en suivant un chemin d'humilité. Donc, quand Jésus dit celui qui s'abaisse sera élevé, il dit quelque chose qui est inscrit dès le commencement. Nous sommes faits pour être élevés, mais par l'abaissement. On va voir que le démon nous propose exactement le contraire, si puis dire. Mais, en tout cas, il faut être conscient qu'il y a au départ une épreuve réelle pour l'homme qui sent en lui, quelque part, des aspirations à une élévation spirituelle, parce qu'il est créé à l'image de Dieu pour Dieu, donc il ressent en lui de grands désirs. Et en même temps, la réalisation de ces grands désirs va passer par un chemin de petitesse. Va-t-il ou non accepter ce chemin? Et le premier chemin d'humilité que Dieu propose à l'homme, qui est le lieu de l'épreuve, c'est l'humilité de la foi. Croire sans comprendre, sans maîtriser, sans dominer intellectuellement. Croire, faire confiance, sans comprendre. Hein? Sans tout comprendre, mais Dieu veut que l'homme puisse exercer une confiance aveugle, précisément pour lui permettre d'entrer dans cette dépendance aimante à lui. C'est-à-dire, il ne veut pas que nous enlever, comme dit Saint Jean de la Croix, le mérite de la foi. Et l'homme était appelé à cheminer dans la foi. Et une foi de plus en plus profonde, de plus en plus confiante, ne mesurant pas sa confiance à sa compréhension. Pensez au petit enfant. Plus on est petit et moins on cherche à comprendre, et plus on trouve sa joie à faire confiance simplement. L'homme était appelé à être de plus en plus petit. Pour pouvoir être élevé de plus en plus. Bien. Il faut reconnaître que c'est dès le départ porter en soi de grands désirs, être créé à l'image de Dieu, pour Dieu, et en même temps être appelé à suivre un chemin de petitesse, et c'est éprouvant. Et les anges, quelle a été leur épreuve? J'ai mis du temps à réaliser que les anges, ils ont été aussi créés dans le temps. Ils n'ont pas été créés comme des êtres qui seraient dès le début en train de contempler Dieu dans la pureté de leur nature angélique. Non, ils ont eu leur temps d'épreuve. Alors, le catéchisme dit que les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Satan ou le diable, les autres démons sont des anges déçus pour avoir refusé de servir Dieu et son dessein. Alors ici, on est un peu dans des hypothèses. Mais il y a une autre parole de l'Écriture qui peut nous aider, qui dit que c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Refuser de servir quel dessein? Refuser de servir pour moi et simplement une sorte d'orgueil, je dirais, que le péché des anges, on dit que c'est l'orgueil, hein, une sorte d'orgueil de simplement de la créature qui refuse de créer, de dépendre du Créateur et puis qui se révolte comme ça. Mais il y a cette histoire de jalousie. Pourquoi jalousie? Mais si on admet que Dieu, avant même de créer le monde visible, a voulu l'homme comme fils adoptif. Quand il a créé les anges, il les a créés aussi en vue de l'homme, au service de l'homme. Service de quel dessein? Du dessein de Dieu sur l'homme, il n'y en a pas d'autre, sur la création. L'homme est la seule créature visible voulue pour elle-même. Donc toute la création visible était ordonnée à l'homme. Et l'homme ordonné à participer donc à cette vie divine filiale dès l'origine, moyennant l'incarnation du Verbe. Dieu crée les anges. Est-ce qu'il les crée? Il les crée donc pour servir ce dessein, messager, serviteur. Ne sont-ils pas tous des esprits chargés d'un ministère? Dit l'Épître aux Hébreux, envoyés en service pour ceux qui doivent hériter. C'est-à-dire nous, héritage des fils. Et alors quoi? On demande à des esprits purs de servir des esprits incarnés, des esprits dans la chair, beaucoup plus faibles qu'eux, et de servir un dessein de divin qui va les élever à la hauteur de Dieu, au-dessus des anges. Parce que le Verbe s'est pas fait ange, mais homme. Quand même ça, il faut le digérer. Hein. l'épreuve du côté des anges, par la jalousie du diable, que la mort est entrée dans le monde. Tu acceptes de servir Lucifer ou tu acceptes pas de servir ce dessein? Scandale de l'incarnation, peut-être pour les anges, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu, dès l'origine, a choisi d'épouser la nature humaine et non pas la nature angélique. Nous avons la preuve de cette élévation au-dessus des anges en contemplant Marie, reine des anges. Bien. Il se passe que le péché a commencé dans le cœur d'un ange. De fait, il y a eu la révolte. S'il n'y avait pas eu cette révolte des anges, l'incarnation se serait faite paisiblement, il n'y aurait pas eu le péché dans le monde et il n'y aurait pas eu la croix. Mais si je vous dis ça, c'est parce que, il me semble, c'est une hypothèse théologique. On a le droit de faire des hypothèses. Je ne sais pas si, Florence, tu as eu d'autres versions, toi, mais... je m'inspire du père Thomas Philippe pour rien vous cacher. Ça fait comprendre pourquoi l'Église dit que le démon, c'est l'ennemi du genre humain. Pas seulement l'ennemi de Dieu qui cherche à s'opposer à Dieu et à son dessein par opposition à Dieu. Non, c'est vrai, il déteste Dieu, mais il a aussi une dent particulière. Il déteste l'homme. Et dans cette jalousie, ce qui le fait, ce qui fait sa joie au démon, c'est d'abaisser l'homme, évidemment. L'avilir le plus possible. Cet homme destiné à participer à la vie divine comme fils adoptif dans le Fils unique, l'abaisser le plus possible, l'aliéner, le souiller. Il y a beaucoup de désordres qui sont attisés dans le monde par le malin, évidemment. Il est le destructeur, donc là où il peut favoriser la guerre, il le fait, mais il faut penser qu'il veut à tout prix, c'est notre perdition éternelle. Donc il est prêt à lâcher du lest au niveau, nous laisser tranquilles si on est sur la mauvaise pente, ça lui suffit. On est prêt à procurer même des jouissances assez substantielles. Tant qu'on s'éloigne de Dieu, c'est bon pour lui. Il n'en aura pas plus que nécessaire parce qu'il nous déteste vraiment, il déteste même ceux qui le servent. Dieu m'a donné la possibilité d'assister à des exorcismes en bonne et due forme. Et donc, d'entendre la voix du démon. En vrai, quoi. C'est pas imitable. C'est de la haine froide. Pure haine froide. À pétrifier, pétrifier, le cœur pétrifié dans la haine. Ça dépasse tout ce qu'on peut entendre de perversion au niveau humain, c'est... On est dans un autre ordre. Il suffit de l'avoir entendu une fois pour ne plus pouvoir douter de la réalité de l'enfer. Il suffit d'avoir entendu une fois de cette haine froide le démon dire « Quelle joie, quand une âme tombe en enfer, on fait la fête. » Le démon a-t-il cherché à détourner l'homme de sa destinée divine? Il faut reprendre le récit du péché originel. Mais il faut penser que cette révolte de l'orgueil angélique par rapport au Créateur, je suis impressionné de voir que dans le magistère de Jean-Paul II, il y a une insistance par rapport à la forme qu'a pris cet orgueil comme refus de se soumettre à la vérité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, si on réfléchit, le refus de servir la volonté d'indépendance totale de la part de Lucifer, elle se traduit concrètement par le fait qu'il a refusé d'un refus de la vérité de son être de créature face au Créateur, un refus de la vérité de Dieu. Positivement, ça aide à comprendre que l'humilité, la première humilité, c'est de se soumettre à la vérité. Et que la première forme d'orgueil, c'est de refuser d'obéir à la vérité. Et donc, il y a, quand Jésus dit qu'à propos du diable, qu'il est menteur et qu'il est menteur dès l'origine, c'est ce qui le caractérise, si je puis dire, il faut prendre dans ce sens-là, d'un refus de se soumettre à la vérité. Dans son orgueil. Quelle va être son arme dans la tentation? Le mensonge. Détourner l'homme de la vérité de Dieu pour attaquer quoi? Pour attaquer la confiance. Pour attaquer l'esprit d'enfance. Parce que le démon sait très bien que la base de la relation à Dieu, c'est cette ouverture de cœur à l'amour premier de Dieu qui s'appelle la confiance. Et donc, tout a commencé par là, insinuer le doute. Semer le doute. Regardez le monde moderne. Comme le doute sur Dieu est bien semé dans le cœur de tant et tant de personnes qui n'arrivent pas du tout à s'abandonner à leur Créateur, parce qu'au fond, d'elles-mêmes, il y a un doute profond. Tu as la possibilité de réaliser sa vie, de réaliser son humanité, en dépendant de Dieu, comme si finalement Dieu était une sorte de rival ou d'un danger d'aliénation pour l'homme. Il ne veut pas que vous deveniez comme des dieux. Le démon les tente l'homme sur sa destinée. Il défigure la chose de Dieu et il présente Dieu finalement comme un Dieu jaloux de ses prérogatives, alors que précisément il était un Dieu qui était prêt à s'abaisser lui-même pour élever l'homme. Il ne veut pas que vous deveniez comme des dieux, mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire si vous proclamez votre autonomie, si vous vous élevez vous-même en refusant de dépendre de ce dieu aliénant, eh bien vous allez voir ce que vous allez voir, vous allez vous réaliser comme des dieux. C'est-à-dire, il inverse la logique première, qui était cette logique de l'abaissement pour l'élévation. Lui, c'est l'élévation, de proposer un chemin d'élévation, d'autonomie, d'indépendance, d'affirmation de soi, qui conduit en réalité, qui va conduire l'homme au plus grand abaissement. Le tour est joué. Et on voit bien dans le monde moderne cette toujours cet aspect d'une tentation d'exaltation de soi par soi, et puis ensuite de complète dépréciation de soi. Et de finir dans des états d'aliénation où l'homme n'arrive plus à croire en la valeur et au fait, comme dit Benoît XVI, qu'il est bon qu'il existe. En définitive, que l'homme finisse sa vie dans une négation de lui-même, dans un désespoir total et dans l'autodestruction de lui-même, le démon est son arme favorite au bout du chemin, c'est la tentation du suicide. Et le péché, de toute façon, est déjà un suicide. Je voudrais insister aussi, c'est que l'homme, il est fait pour se réaliser lui-même, se trouver lui-même, en tant qu'homme, en étant tourné vers un autre que lui-même, Dieu. Le Fils, bien-aimé du Père, il est pure relation au Père, il est pure filiation, il est tout entier tourné vers le Père. Il n'a pas d'autre vie que sa relation au Père. Et l'homme est fait pour sortir continuellement de lui-même, vivre une vie extatique, sorti de lui-même, et c'est dans cette extase qu'il se trouvera lui-même, parce qu'il est créé à l'image d'un Dieu extatique. Chaque personne est ouverture à l'autre, en Dieu. Et donc, le démon, évidemment, il comprend tout, hein. Enfin, il comprend tout, il voit ça, il sait. Il sait, et il va chercher à ce que l'homme, donc, au contraire, se referme sur lui-même, se referme sur lui-même, se cherche lui-même, se regarde lui-même, soit de plus en plus égocentrique. De toute façon, l'homme ayant perdu la confiance en Dieu, il ne sait plus tourner son regard vers Dieu, s'ouvrir à Dieu, et donc en fait il se retrouve à se regarder lui-même, où on se complaît en Dieu, où on se complaît en soi. Donc l'homme qui a perdu la confiance en Dieu, c'est un homme qui est de plus en plus refermé, replié sur lui, et qui en réalité, dans ce repliement sur lui-même, n'arrive pas à se trouver lui-même, il est dans une quête de lui-même désespérée, parce qu'en définitive, l'homme ne se peut se trouver qu'en se perdant lui-même, qu'en s'oubliant lui-même pour un autre, en sortant de lui-même. Eh bien, le drame du monde moderne, hein, ça. On se cherche et on ne se trouve pas. Parce qu'on n'a pas compris qu'on était radicalement fait pour Dieu. Je résume en trois mots. Florence, tu confirmes simplement.
Oui, je suis en train de chercher pendant que tu parles de comment est-ce que l'homme fait l'expérience de l'amour déjà dans sa famille, dans son enfance, et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'en se perdant, on se trouve, si on n'a pas du tout de sécurité personnelle, si on n'a pas d'image aussi du don, et du don comme joie et plénitude. Et c'est effectivement le drame de nous tous. Mais comment trouver ça? Comment faire l'expérience de ça si on ne l'a jamais eu avant? Et c'est aussi ça, toutes les fausses images de Dieu, parce qu'on ne connaît que ce qu'on a connu, par définition, et savoir que ça puisse être autrement, c'est un saut que nous connaissons, si nous avons la chance d'avoir la foi, mais qui est un saut vraiment dans le vide. Et moi je dis toujours que pour moi la plus grande conversion, c'est pas croire que Dieu est Trinité ou l'incarnation, c'est d'oser croire que Dieu n'est pas comme mes parents. D'oser croire qu'il existe un amour qui ne me veut que du bien et qui m'invite à la confiance. C'est que pour moi, c'est ça, le plus grand retournement. et la plus grande adhésion à la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Pour ça, il faut une expérience de Dieu, parce que sans quoi on peut même pas l'imaginer.
Ben, c'est là où je crois que l'accompagnement est important, parce que déjà dans l'accompagnement, on peut faire l'expérience de quelqu'un qui nous veut du bien. Quelquefois Dieu, évidemment, intervient tout seul en nous, mais quelquefois il nous demande d'être ses bras, ses mains, son cœur. Et justement, c'est ce que nous essayons de faire dans ce parcours, de dire que l'accompagnement, c'est pas du béni oui-oui, c'est vraiment très fort comme présence et comme direction, comme montrer.
Le démon, il cherche à détruire l'édifice de notre vie spirituelle à la base. Il connaît bien la base. La base de tout, c'est la foi. Cette foi en un amour inconditionnel. Je repense à ce qu'a dit récemment Benoît XVI, je pense que c'était à l'occasion des vœux faits à la curie. Le 22 décembre, si mes souvenirs sont bons, Benoît XVI a développé cette pensée que l'homme ne peut s'accepter lui-même que s'il est accepté par un autre et d'un amour inconditionnel. Il n'y a que l'amour de Dieu qui soit inconditionnel. Donc plus l'homme s'éloigne de la foi en cet amour inconditionnel, plus il se retrouve dans l'incapacité de s'accueillir lui-même, de s'accepter. Donc ça conduit à la fois à une sorte d'exaltation de soi dans un recherche d'un idéal de soi et puis en même temps dans une pente de dépréciation de soi et finalement d'autodestruction. Le démon, la tentation originelle, c'est pas simplement la tentation qui est à l'origine de dans l'histoire, mais c'est la tentation à l'origine des autres tentations. C'est-à-dire, il y a un engrenage, il y a une logique. La base, c'est la foi, donc à partir de la foi, l'espérance est atteinte, puis c'est l'amour qui est atteint, c'est tout qui se mine, qui s'écroule. Et on reviendra peut-être sur cet engrenage la fois prochaine pour voir aussi comment nous pouvons sortir de cet engrenage. Mais je reviens simplement sur cette pensée chère au Père de l'Église. Quand l'âme n'obéit pas à Dieu, le corps n'obéit pas à l'âme. C'est-à-dire, en fait, dans cette volonté d'autonomie vis-à-vis de son Créateur, l'homme perd la maîtrise de lui-même. Il veut être le maître, mais il perd la maîtrise de lui-même. L'âme n'est suffisamment forte pour tenir le corps, si je puis dire, enfin pour l'animer spirituellement et je dirais le posséder en bon sens du terme, que si elle est elle-même animée par Dieu, si elle se laisse elle-même pénétrer par Dieu. Et donc, il ne faut pas s'étonner de l'aliénation de plus en plus grande au niveau des passions, notamment des passions de la chair, parce que ça, le démon, tout ce qui est perversion sexuelle, aliénation sexuelle, ça, il raffole de ça. Dans les messes noires, on fait venir des travestis, j'en ai connu un qui avait travaillé comme travesti dans des messes noires. Tout ce qui est débauche aliénante avec dépendance à des formes de tendances désordonnées sexuelles, alors là, le démon, c'est sa joie. Surtout si ça se termine en des formes de, finalement, d'autodestruction, enfin, ne serait-ce que par toutes les pratiques sadomaso. Ça, les pratiques sadomaso, ça, le malin pour inspirer ça, il est dans son domaine. Tout ce qui avilit l'homme, Là, il prend sa revanche, là. Cet homme fait pour être élevé à la hauteur de Dieu, regardez-le. Il ricane. Sa joie. Perversion, vous savez, le sadisme à l'état pur. Je me souviens, Florence, une fois, d'avoir entendu dire que face à des gens pervers, tu sentais la présence du malin.
Oui. Oui, ça suffit.
Ça suffit. Bon, on est d'accord. Le démon, plus il voit qu'on est avancé dans notre chemin spirituel, plus il va être subtil, malin dans ses tentations. Saint Jean de la Croix a une belle expression, il dit que quand le démon ne peut pas nous tenter sur le mal, parce qu'on est trop attaché à Dieu, il nous tente sur le bien. Et alors, comment il fait pour nous tenter sur le bien ? Mais en nous présentant un bien qu'on pourrait faire, mais qui en réalité qui n'est pas celui de la volonté de Dieu, et à travers lequel, en nous séduisant à un bien qu'on imagine, qu'il nous présente, qu'on pourrait faire ceci, cela. Et puis il sait que si on mord à l'hameçon, il pourra finalement nous conduire sur le chemin du mal. Donc, faut faire attention, parce que j'ai envie de poser comme premier principe que on a affaire à un adversaire qui est plus malin que nous, qui peut sans cesse inventer des pièges nouveaux. Alors c'est pas parce qu'on a résisté à une tentation qu'on est prêt à déjouer la suivante. Saint Jean de la Croix dit même que les ruses, les attaques du démon sont tellement en fait subtiles et tellement malins que seule la lumière de l'Esprit Saint peut nous les dévoiler. Dieu a le pouvoir de nous, vraiment de nous, s'ouvrir les yeux sur ces pièges diaboliques. Moi, j'ai envie de vous dire, faut pas jouer au malin avec le malin, au plus malin avec le malin, parce qu'il est plus malin que nous. On est plus sage que lui, uniquement dans le Christ. Mais ne nous appuyons pas sur notre propre expérience, sur... Moi, je me suis rendu compte que j'avais une tentation du fait que j'ai assisté à des exercices, que j'ai côtoyé des gens qui avaient fait de la sorcellerie de près, que j'ai toute une connaissance de ces choses-là, une tentation de m'y croire un petit peu. Et je vois que les exercices eux-mêmes sont terriblement tentés et piégés. Plus ils deviennent compétents et plus ils sont piégés. Parce que le secret, ça restera toujours dans notre lutte contre le malin. La seule victoire totale, c'est l'humilité. Il n'y a pas de victoire radicale en dehors de l'humilité. Donc, ici, je rejoins une remarque de Sainte Thérèse d'Avila, comme quoi, comme dit Sainte Thérèse d'Avila, l'artifice à l'aide duquel le démon peut à notre insu nous causer un grand mal, c'est de nous persuader que nous avons des vertus. Je suis arrivé à tel niveau, j'ai compris telle chose, maintenant je sais que, je sais faire ça, non mais je le dis en toute humilité.
Une vertu de plus.
Parce que c'est la vérité objective, et l'humilité, comme chacun sait, c'est la vérité. Donc, voilà, il ne faut quand même pas ignorer. En plus, je rends grâce à Dieu, évidemment, je rends grâce à Dieu. Mais l'important, c'est que je la possède bien, cette vertu, et voilà, c'est quand même agréable de, de posséder une vertu. Hein. Alors, d'abord, il n'y a rien de plus dangereux, dit Saint Thérèse d'Avila, que ça. D'abord, il affaiblit en elle l'humilité, ça, premier but. En second lieu, il la rend négligente à acquérir les vertus qu'elle croit déjà posséder. C'est gagné, hein. Le démon nous suggère quelquefois que nous avons telle ou telle vertu, la patience par exemple, parce que nous formons intérieurement la résolution de la pratiquer. Parce que nous exprimons souvent à Dieu le désir de souffrir beaucoup pour lui. Il nous semble que ce désir est très véritable. Nous éprouvons alors une satisfaction profonde. On a toujours tendance à prendre ces désirs pour la réalité. Du moment qu'on désire souffrir pour Dieu, on est quand même pas mal, hein. Au moins, qu'est-ce que je ferais pas pour Dieu, hein? Mais c'est fou, hein. Ouais, mais on ne sait pas de quoi on est capable dans la réalité. Mais on se bourre nous-mêmes le. Comment on dit?
On se bourre le mou.
Le démon nous bourre le mou, là, maximum. Là. Il est content, on s'y croit, hein. Puis il peut nous mettre ça un peu de plus en plus, trouver des gens qui vont nous dire ben oui, oh là là, qu'est-ce que t'as changé? T'es, maintenant, t'es comme ça, tout ça. Et alors, nous éprouvons alors une satisfaction profonde, autosatisfaction, et le démon ne met rien pour nous confirmer dans ce sentiment. C'est aussi la pauvreté, on se croit pauvre, on s'imagine qu'on est détaché de tout. La coutume de dire qu'on ne désire rien, qu'on se met en peine de rien.
On reçoit en quelque sorte les fruits de l'esprit, c'est toujours à acquérir. Tandis que la vertu, c'est un peu une notion antique.
La vertu, la différence, c'est entre le don de l'esprit, c'est une vertu. La vertu morale s'acquiert par l'exercice. De fait, on grandit dans la vertu. Le problème qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il n'y a pas de vertu véritable, au sens de vraie vertu, en réalité, sans la charité divine. L'amour est la mère de toutes les vertus. On demande tout d'être porté à leur achèvement par la charité divine. Alors la charité divine, elle est proportionnée à l'humilité en nous. Donc en réalité, l'orgueil qui s'insinue dans nos vertus fait qu'elles ne fonctionnent plus. Elles sont faites pour être animées de l'intérieur, animées par la charité divine. À ce moment-là, elles donnent la capacité, si vous voulez, d'être animées par l'amour en ayant une humanité qui suit entièrement, si je puis dire. Je ne sais pas comment. Tu me suis, là, Florence ?
Non, pas très bien.
C'est-à-dire, si dans notre humanité, on garde des vices, il y aura toujours des tiraillements entre notre humanité, la chair, et puis l'action de l'Esprit Saint. Si notre humanité est devenue vertueuse, si on a acquis des bons plis, eh bien, il n'y aura plus ces tensions permanentes entre nous, les désirs humains de la chair, et puis les désirs de Dieu. C'est-à-dire, on est unifié.
Ça arrive. Ça arrive.
Oui, ça arrive en plus. Le problème, c'est que si on commence à se complaire dedans, c'est là que de l'intérieur, l'édifice s'écroule de nos vertus. Parce qu'elles ne sont plus animées par la charité divine, mais plutôt par notre orgueil. Bien. Je ne développe pas plus parce que ce n'est pas le but. Hein? Nous restons dans le cadre du combat contre le malin. Donc je vous dis ici, et j'insiste sur le fait que le démon fait tout pour que nous nous appuyions sur nous-mêmes, d'une manière à notre insu, parce qu'on dira toujours évidemment qu'on ne fait confiance qu'à Dieu et qu'on est conscient de sa totale misère. Mais en attendant, on se complaît un petit peu dans le fait qu'on a acquis telle vertu. En plus, c'est vrai, on a fait des progrès. Mais en réalité, une vertu n'est jamais totalement acquise puisqu'elle est suspendue à la charité divine, qui, elle, n'est jamais totalement acquise, puisque ça relève d'un don. Donc
oui, on a compris.
attention à ces jugements sur nous-mêmes. Le mieux, ce n'est pas se juger soi-même, je crois. Saint Paul le dit bien, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, je n'en suis pas justifié pour autant, et je ne juge pas moi-même, on juge le Seigneur. Ça va aussi dans le sens de la culpabilité, c'est-à-dire on tombe dans la culpabilité. Le démon est bien, c'est l'accusateur. La Florence pourrait peut-être expliciter davantage les choses que moi au niveau de cette tentation de la culpabilité, mais c'est sûr que la culpabilité, ça commence aussi par un regard sur soi. Et la faille, elle est là. Se juger soi-même. Donc quand j'ai dit vous ne jugerez pas, ne jugez pas, c'est ni les autres, ni nous-mêmes. Sinon, tac, on met le doigt dans l'engrenage, le malin, on lui ouvre une porte.
Oui, justement, la culpabilité, c'est moi par rapport à moi et par rapport à l'idéal que je me suis fait de moi. Sans ça, si c'est par rapport à Dieu, c'est la repentance. C'est pas la culpabilité. Culpabilité, c'est moi par rapport à moi. Et la repentance, c'est moi par rapport au Seigneur, où je reconnais qu'il m'invite à lui faire confiance et que je ne l'ai pas fait. Et à ce moment-là, j'entre dans la repentance, c'est-à-dire je suis en relation avec lui. Je ne suis pas que moi à tourner sur moi, que je suis désolée de ne pas avoir pu. Mais c'est moi par rapport à lui. Voilà, juste.
C'est bien dit, sous note. J'ai envie de rajouter que donc en même temps qu'il nous pousse à nous appuyer de manière imperceptible, quasi imperceptible sur nous-mêmes, le démon en même temps c'est inséparable. Si on s'appuie sur soi, forcément on rentre dans un mouvement où on se regarde soi et on se referme sur soi. Et donc, à ce moment-là, au lieu d'être dans une ouverture de cœur à un autre que soi, on va être, comme l'a dit Florence, dans la recherche d'un idéal. Et beaucoup de bons chrétiens confondent Jésus et l'idéal. Ils ne sont pas vraiment en quête d'une personne vivante et concrète. Ils sont en quête d'un idéal de sainteté, de perfection, de vie chrétienne, qu'ils confondent avec Jésus, je peux dire, parce que pour eux, aimer Jésus, suivre Jésus, en fait, c'est suivre cet idéal. Et non. Jésus nous demande de le suivre lui, de nous laisser attirer par lui, toucher par lui, de l'expérience de son amour premier, pur et gratuit. Et ça, le démon fait tout pour nous détourner d'une vraie relation, de manière qu'en réalité nous restions enfermés en nous-mêmes. L'idéalisme, ça ne gêne pas. Le moralisme héroïque, ça ne gêne pas. Perfectionniste, ça ne gêne pas. Au contraire, tout ça, ça joue son jeu à lui, dans le sens de nous recentrer sur nous-mêmes d'une manière subtile. Parce qu'évidemment, c'est tout ça, c'est avec de très belles idées, tout pour Dieu, la sainteté, on s'oublie totalement pour les autres. Ça me fait penser à une parole de Simone Veil, mais c'est un de mes confrères qui m'a cité, qui dit qu'il y en a qui se sacrifient faute de savoir se donner. Mais le nom, il est dans l'héroïsme du sacrifice, vécu comme idéal de soi, pour nous détourner d'un vrai don de nous-mêmes qui ne peut prendre d'abord que la forme d'un abandon, d'une remise de nous-mêmes à un autre. Donc, le danger à ce moment-là, c'est qu'on, comme en réalité, on est enfermé en soi, malgré soi, sans en avoir conscience, hein, on n'est pas au niveau de la conscience, là, au niveau d'une manière dont le démon cherche à nous prendre dans ses filets. C'est qu'on se retrouve dans ce que Benoît XVI appelle un état de somnolence spirituelle. C'est-à-dire la foi, l'espérance et l'amour sont endormis en nous, parce qu'on est dans cet enfermement. Il ne faut pas oublier que envoûter, ça veut dire mettre sous voûte. Les mots, ils cherchent à nous enfermer, séparer. Diabolos, le diviseur, sépare de Dieu, sépare des autres, sépare de la réalité elle-même. Pour nous garder enfermés en nous-mêmes. Dans un moi qui est tellement gros qu'on ne le voit plus. De toute façon, il n'y a rien qui aveugle plus que l'orgueil. Donc plus il réussira à nous entraîner dans un orgueil spirituel sous couleur d'idéal chrétien, et plus on sera aveuglé sur nous-mêmes. La pente, elle est terriblement dangereuse. Regardez les pharisiens. Zélé pour Dieu. Mais, comme dit Saint Paul, du zèle pour Dieu, mais sans. En étant en même temps aveuglé, quoi. Sans cette intelligence profonde de ce qui fait la vraie vie spirituelle, et qui est d'abord quelque chose qui se vit dans notre cœur. Que Jésus nous ramène toujours, et notre cœur, il est fait pour s'ouvrir. Il est cette capacité qu'on a précisément de s'ouvrir à un autre que nous-mêmes. C'est parce qu'il a le plus intime en nous-mêmes, le cœur, que nous nous ouvrons à un autre que nous-mêmes. Et là, le démon le sait, et il fera tout pour que notre cœur soit appesanti, dorme, ne soit plus réellement en état d'animer notre vie, qui fait qu'on n'est plus dans le cœur, on n'est plus dans l'intériorité, on est dans le mental. Et ça, c'est son domaine. Le mental. Un mental qui peut être très spirituel, apparemment, mais on n'est plus dans la vie théologale. Et donc, à ce moment-là, on est bon pour se laisser influencer par lui. Il ne peut pas pénétrer dans notre cœur, mais par contre le mental, ça, c'est un domaine dans lequel il a pouvoir, depuis le péché originel. Le psychisme et le corps peuvent être le lieu d'une domination du malin, et donc il peut nous mettre des pensées, par exemple, mettre des pensées obsessionnelles dans notre mental. Maintenant, à un moment où on n'est plus dans l'ouverture vraiment à Dieu, qu'on n'est plus au niveau du cœur, là, tout ce qui est pensées comme ça qui vont, puisque c'est au niveau de la tête. Moi, je me souviens très bien, quelques mois avant mon ordination diaconale, c'est à ce moment-là qu'on prend l'engagement pour le célibat, des pensées obsessionnelles qui ont duré des mois, jusqu'en mois d'août, c'était août 87. Ça s'est arrêté pendant une retraite que j'ai faite avec le père Thomas Philippe. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Mais pendant des mois, c'était une pensée exceptionnelle. Si je m'engage dans le célibat, je suis plus libre après. Je perds ma liberté. Mais au fond de mon cœur, je savais que c'était pas vrai, mais c'avait une force d'imprégnation, vous voyez, d'insinuation, qui est propre des obsessions démoniaques. Mais c'est ça, s'imposer. C'est là qu'on a un esprit plus fort que le nôtre. Alors, si au fond de son cœur on garde la forme, on résiste comme on peut, on fait un petit on n'est pas d'accord au fond de nous-mêmes, mais on est comme ça nous envahit le mental, ça nous torture, et puis si on résiste pas, ben carrément on part pardon, des illusions complètes, puis des pensées tout simplement qui nous conduisent sur des chemins de mort. Hein. Ça commence par le fait qu'on n'est plus au niveau du cœur. Ben voyez, là, on peut commencer à comprendre ce que je voulais dire par l'engrenage. L'engrenage du péché. Tout commence par nous sortir de cette relation première à Dieu qui s'appelle la confiance. L'humble confiance, qui est la base de tout. Donc, il faut toujours revenir à la tentation originelle dans le combat spirituel, c'est-à-dire toujours revenir à ce qui est le cœur, le secret, disons, plutôt de la sainteté, qui est la voie d'enfance. Humilité, confiance, abandon. La Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'à la fin de sa vie, elle ne s'appliquait plus qu'à ça. Si on s'applique à ça, on sait qu'on coupe radicalement au démon l'accès à notre vie intellectuelle et à notre... Enfin, il n'aura plus de prise sur nous. Il y a pour ça que les théologiens considèrent que Marie n'a jamais été sous emprise démoniaque parce que dans son humilité, elle ne laissait aucune faille. L'action du démon. Puis de plus, ça n'était pas dans les conséquences du péché originel. C'est pas atteint par le péché originel. Parce que nous avons quand même une faille première, même si nous appliquons à la sainteté, que nous sommes vigilants. Même les saints peuvent avoir des emprises démoniaques, mais à ce moment-là, ils ne sont pas aveuglés. Vous voyez, le cœur est bien vivant, bien éveillé, mais simplement, ils peuvent être torturés par des blasphèmes, des pensées. Ça, c'est des emprises démoniaques dont les saints peuvent souffrir. Ça, c'est une conséquence du péché originel, donc la nature humaine est soumise à ça, y compris les saints. Est-ce que Jésus lui-même a voulu être soumis à ça dans sa passion? Je ne sais pas. Je pense que le minimum qu'on puisse dire, j'ose pas me prononcer, c'est une question si délicate, mais le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'il a assumé la torture mentale que peut provoquer ces choses-là sur les hommes. Ce qui dit à un moment que le démon n'a pas prise sur lui. Évidemment, il est toute humilité face au Père. Le démon n'a pas prise sur lui, et en même temps, il a voulu connaître la tentation au désert, et en même temps, il a porté tout le poids de la misère et de la humaine et du péché, et donc il a assumé ces états dans lesquels l'homme est complètement matraqué par le malin. Par exemple, Marthe Robin, elle était matraquée par le malin, dans le sens, j'ai entendu Père Finet lui-même le dire, dans le sens que le malin l'obsédait par la pensée qu'elle trompait son monde, qu'elle n'était qu'une hypocrite, qu'elle se faisait illusion quant à cette histoire de stigmate et tout ça, qu'elle trompait son monde et que finalement elle faisait beaucoup plus de mal que de bien. Obsessionnelle, vous voyez, vous imaginez? Benoît XVI a eu cette pensée, j'ai pas retrouvé la citation, mais que l'homme centré sur lui-même est un homme affaibli. Et on pourrait rajouter aveuglé. C'est cet homme, quand le démon arrive à nous recentrer sur nous-mêmes, nous sommes dans cet état d'affaiblissement et d'aveuglement, c'est là qu'on peut perdre les pédales, et que lui peut s'insinuer et mener le jeu. C'est comme une répétition du péché originel. D'abord, nous détourner de la relation à Dieu, nous retourner sur nous, et ensuite, il mène le jeu. Bon, je n'insiste pas sur le fait que le démon imite un capitaine comme dit Saint Ignace qui fait emporter une place. Il considère les forces et les dispositions de cette place, il attaque du côté le plus faible, c'est évident que le démon connaît nos failles, nos défauts, et qu'il sait en jouer. Mais il n'aurait pas ce pouvoir d'en jouer si nous restions dans l'humilité. Voilà. Le secret de la victoire. Vous vous souvenez de la pièce de théâtre de Tite Thérèse, triomphe de l'humilité, montrant que les démons en définitive ne craignent que cela. Si on revient à cette question de qui est notre le but de ce parcours, c'est quand même savoir comment on peut aider les autres, mais pour ça, bien obligé d'approfondir certains sujets. Mais si on revient à la question au niveau de l'accompagnement, voyez que si une personne vient à nous, elle est dans la confusion, alors peut-être même elle a des obsessions qui viennent du malin, en tout cas elle est enténébrée, et que à l'origine de tout ça, il y a une pointe d'orgueil, un truc qui lui échappe à elle-même, et que nous, on essaie de la ramener à la raison, mais on voit que ça patine, on n'arrive à rien. Hein, ben c'est là qu'il faut se dire que bon, il y a peut-être une racine plus profonde que simplement la fragilité psychique de la personne. Que si ça patine comme ça, c'est que bon. C'est là qu'il faut être conscient qu'il peut y avoir un combat spirituel, proprement spirituel. Il n'y a pas que du problème psychologique, de fragilité, tout ça. Et essayer de ramener la personne à cet essentiel qui est sa vie filiale, sa relation à Dieu, et de voir, d'essayer de discerner là où est la faille, la vraie faille. Et moi, je pense de plus en plus que s'il y avait l'humilité, il y aurait beaucoup moins de pathologies. D'accord avec moi, Florence? Je dis ça un peu intuitivement, mais on m'a dit que le père Thomas l'avait dit, et puis moi, en regardant certaines personnes qui sont de milieux simples, sans aucune prétention, ben, je vais donner un exemple. Ce matin, je pense à une personne qui est venue me voir, terriblement blessée en réalité, née d'un, pas de son père, mais d'un homme qui s'est marié, qui a séduit sa mère, qui ensuite a dit partout dans le village que c'était lui le père et qu'il obligeait à lui faire des bisous, tout en étant quelqu'un d'assez... comment dire, c'était un coureur de jupons, quoi. Violé par son frère pendant longtemps, ensuite par ses cousins, et ensuite, bon, avec une mère qui, je dirais, qui était très, très peu... comment dire, aimante, et de façon qui souffrait d'une culpabilité terrible et tout ça, et bien cette personne-là m'a semblé assez équilibrée. En tout cas, elle a une vie de foi, et puis elle ne se regarde pas elle-même, elle m'a confié ça, sa souffrance, tout ça, mais elle n'était pas du tout à se plaindre, à larmoyer sur elle, pas du tout, il n'y avait pas de... Un milieu très simple. Ouais. Milieu très simple. Il n'y a pas d'idéal de soi, il y a des gens, ils sont... À l'humilité, ça aide. Rien à dire. Et, à mon avis, on va, comme on est dans une société narcissique, on va vers une escalade des pathologies. Et ça, chez les Africains aussi, on voit des trucs familiaux mais terribles. Puis ils s'en sortent beaucoup mieux. Bon, c'est une parenthèse. Allez. L'influence du démon. L'Écriture dit, et ça confirme tout ce que je vous ai dit, hein, je ne fais que reprendre, là, que le démon est roi sur tous les fils de l'orgueil. C'est dans la fin du livre de Job. Il est roi sur tous les fils de l'orgueil, c'est ça. Ici, j'insiste simplement sur une distinction qu'il faut faire entre les influences, l'influence morale du malin, qui s'insinue dans nos pensées d'une manière perceptible et qui arrive à nous guider comme ça, à prendre finalement, à être de fait le roi qui mène le jeu. Et puis, ce qu'on appelle l'action spécifique du démon, ou disons plutôt les emprises, terme utilisé par le catéchisme, emprises démoniaques qui sont de l'ordre d'une domination que le démon exerce sur notre psyché, c'est-à-dire sur notre corps, qui est une domination où il montre qu'il est le plus fort. Il impose des pensées, par exemple des pensées de blasphème. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'être sous emprise du malin par rapport à la Vierge, de ressentir une haine terrible vis-à-vis de Marie. Bon, ça venait pas de moi, et en plus j'étais en train de dire le chapelet. Oui. Ça, le démon a un pouvoir de susciter des choses, des sentiments même, de haine, des pensées terribles. C'est pas nous. Tandis que, quand on dit que le démon est roi sur les fils de l'orgueil, on veut dire que la personne qui s'est laissée librement, a consenti à ce chemin d'orgueil, se retrouve aussi, quelque part, librement, comment dire, à consentir à ce qui suit, c'est-à-dire sa liberté est engagée dedans. Même si elle ne se rend pas compte que c'est le démon qui l'a conduit, malgré tout, sa liberté est consent. À la base, il y a un consentement. Moi, je n'ai jamais consenti à avoir de la haine vis-à-vis de Marie. C'est pas ça, c'est pas du tout la question. C'est simplement que le démon a pouvoir depuis le péché originel. Il peut, s'il le veut, hein. Enfin, s'il le veut, si Dieu lui permet. Est-ce que j'ai besoin de préciser que le démon reste une créature qui ne fait rien sans la permission divine. Il reviendra la prochaine fois, la manière de vivre le combat. Mais en tout cas, l'emprise démoniaque, c'est pas gênant. Quand notre liberté qu'on sent pas, ça n'offense pas Dieu, vous pouvez voir les blasphèmes les plus terribles, vous pouvez être envahi de pensées impures pendant la messe, vous pouvez... tout ce que vous voulez,
merci.
Pas gênant. C'est simplement un peu troublant. Quand je dis un peu, c'est grotesque. Mais évidemment, le malin est plus malin que ça. C'est-à-dire, s'il fait tomber dans des choses grotesques comme ça, c'est peut-être parce qu'on a ouvert une porte bête, du style porter un objet fétiche, on ne sait pas d'où ça venait, et puis on s'est laissé... du style avoir participé à une séance de spiritisme, du style des choses bêtes, quoi, de se laisser lire les lignes de la main, d'avoir donné sa photo à une voyante, et puis on ne s'étonne pas d'avoir des emprises démoniaques après, bon, d'accord. Mais, je veux dire, ce qui est gênant, c'est la manière dont les gens le vivent, c'est-à-dire notre réaction. On viendra là-dessus par la suite. Mais évidemment, si le démon fait ça, d'abord, c'est ce qu'il cherche, est-ce qu'on s'approprie ces choses-là. Par exemple, le truc classique, c'est la personne qui a des... Je pense à une personne qui a avait des obsessions sexuelles pendant à chaque fois qu'elle assistait à la messe, et en fait, elle s'est tellement culpabilisée qu'elle a fini par dire que dans ces conditions-là, il valait évidemment mieux qu'elle n'aille pas à la messe. Voilà. C'est tout ce que le démon cherchait. Et en fait, elle avait pendant longtemps porté un objet fétiche sur elle, un guérisseur, voilà. Marabout, style marabout, voilà, un truc bête. Ces trucs bêtes que les gens font sans savoir ce qu'ils font et tout ça, malheureusement, ça suffit pour emprise. Ça suffit pour une emprise. Mais il peut y avoir, moi j'ai vécu une forme d'emprise sans avoir porté de fétiche. Hein. Voilà. Et on va attaquer comme ça, Padre Pio, il était toutes les nuits matraqué par le malin, il n'y avait pas de question de fétiche, il n'y avait pas de spiritisme, rien du tout. Donc, je dis, c'est d'abord une conséquence du péché originel. Mais si vous rajoutez la conséquence du péché originel, une participation à des choses qui relèvent plus ou moins de loin ou de près de la sorcellerie, bien évidemment, on va vous étonner que ça puisse prendre des proportions un petit peu impressionnantes. Bien, écoutez Saint Paul, à propos de ceux qui s'opposent à la foi. Dieu peut-être leur donnera de se convertir pour connaître la vérité et de revenir à la raison. Hors du filet du diable, qui les tient captifs, traduire capturé, asservi à sa volonté. Voilà deux gens qui s'opposent à la foi chrétienne, les opposants. Il dit à Timothée, écoute, fais preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de ces gens-là. Ne t'énerve pas, autrement dit, ça ne sert à rien. Parce que en réalité, les démons les tiennent dans ses filets, captifs, asservis à sa volonté, mais Dieu leur donnera peut-être la possibilité de se convertir. Ça relève de la conversion. Il y a beaucoup de choses qui relèvent de la conversion, et pas du raisonnement logique. Et parler avec une personne pendant des heures et des heures, essayer de lui expliquer qu'elle ne voit pas les choses comme il faut, qu'est-ce qu'elle dit, vous n'avez pas trouvé le point de conversion. Si vous n'avez pas pu l'appeler la conversion, vous n'avez pas déminé le terrain à la base et le malin reste le plus fort. Les raisonnements humains, ça fait bien rire le malin. Il sera toujours le plus fort au niveau du raisonnement, il va tourner les trucs, la personne retourne les machins, il a... On s'en sort pas. De toute façon, le problème n'est pas là. Le problème relève du fait qu'il y a une faille, et que c'est cette faille qu'il faut arriver à discerner pour aider la personne à sortir de l'engrenage et de cette capturation. Parce qu'elle est capturée. Actuellement, je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont capturés. Alors, encore une fois, ça ne relève pas, c'est pas l'emprise, hein, c'est l'influence. Mais une influence qui conduit à une sorte de véritable esclavage.
Excuse-moi, entre l'emprise et l'influence...
Je redis, l'emprise, ça reste extérieur. Notre liberté n'est pas engagée dedans. On peut éventuellement se délecter dedans, mais c'est le démon lui-même qui agit, lui. C'est son action qu'on constate sur notre psychisme, notre corps. L'influence, c'est nous qui nous laissons, qui mordons l'hameçon et qui laissons sa pensée devenir la nôtre, qui consentons à ses pensées, qui y adhérons. Et qui nous retrouvons donc téléguidés, guidés par lui. Et notre première adhésion a été adhésion à un mouvement d'orgueil, il y a quelque chose qu'il a cherché à susciter en nous. À partir de là, il est le roi, mais un roi par consentement intime de notre liberté, même si c'est encore une fois à notre insu. On peut y avoir les deux. Influence et emprise. J'étais très frappé de voir que l'exorciste avec lequel j'ai travaillé pendant des années me disait que régulièrement il était amené à faire des exorcismes sur des personnes de la franc-maçonnerie qui cherchaient à en sortir. Alors que dans la franc-maçonnerie il y a une petite minorité de personnes qui font de la sorcellerie. C'est chose connue normalement. Je crois qu'ils se font appeler les chevaliers Kadosh, saints en hébreu. Et bon, il n'a pas peur. Et donc eux font vraiment des choses. Mais ceux qui adhèrent à la franc-maçonnerie peuvent se retrouver sous emprise démoniaque par adhésion. Mais à mon avis, ils sont encore plus sous influence par orgueil intellectuel. Enfin, ceux qui sont dans l'orgueil intellectuel, il peut y en avoir quelques-uns qui ne sont pas mus par cet esprit d'orgueil qui est propre à la franc-maçonnerie, qui est vraiment un refus de se soumettre à la foi, de rentrer dans l'obéissance de la foi, et qui sont sous emprise parce que ils ont accepté de rentrer dans certains rituels, et puis derrière ça, ils se cachent des pratiques qui sont purement et simplement de sorcellerie. Voilà, c'est pour vous expliquer qu'il peut y avoir finalement pas mal de gens qui connaissent des emprises mais qui ne savent pas. Par rapport à ça, j'ai quand même souligné une chose. Je vous cite la Congrégation. « Sur les pécheurs, le diable n'exerce qu'une influence morale, mesurée du reste à l'accueil que chacun consent à ses inspirations. c'est librement qu'ils exécutent ces désirs. Ils citent Jésus aux pharisiens. Pharisiens, c'est bon, quelqu'un qui s'opposait au Christ, typiquement le cas d'influence. Il n'a pas fait d'exorcisme sur les pharisiens. Ça ne relevait pas d'un exorcisme. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous êtes du diable, votre père, ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Ça, c'est l'influence. Vous voulez librement, vous consentez. Vous ne savez pas que c'est le diable, mais maintenant vous consentez quand même à ces désirs pervers. Vous voulez me tuer ? C'est le désir du diable. Et il est bien dit dans l'évangile de Saint Jean que Satan entra en Judas. Il entre par consentement. Tandis que chez quelqu'un qui est simplement sous emprise, le démon n'entre pas dans la personne. Il exerce simplement sa domination sur elle. C'est différent. Parce qu'elle n'a pas consenti. Et ça rejoint aussi une vérité essentielle, mais on y reviendra la prochaine fois, c'est que il y a toujours une chose qui nous restera et que sur laquelle le démon est entouré, c'est ce qu'on appelle la bonne volonté. Et ici, je me réjouis de pouvoir reciter un exercice du XVIIe siècle que la petite Thérèse avait lu. Elle se délectait de cette parole, une parole du diable, disant « Nous ne pouvons rien contre cette chienne de bonne volonté. » C'est-à-dire, il restera toujours notre liberté de consentir ou non à ses insinuations, à ses tentations. Donc, tant qu'il reste cette bonne volonté, ne désespérons pas, même si on a l'impression d'être complètement, quelquefois, envahi et pris. Mais non, il reste la bonne volonté. Ce qui fait qu'en réalité, nous appartenons bien à Dieu et ce n'est pas le démon le plus fort. Un chrétien qui n'a pas de combat ne doit pas pour autant penser qu'il n'est pas en danger. Parce que, ça j'ai mis du temps à le comprendre, mais vous savez, dans la parabole, à un moment, Jésus parle de l'homme fort qui est ligoté. Et cet homme fort, il tient son palais, ses biens sont en paix, précis, ils sont tranquilles, ses biens. Le démon laisse tranquille ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire, des personnes qui sont en réalité sous son influence, comme les pharisiens, il ne va pas se dévoiler, se démasquer, ils ne vont pas connaître des grands combats et tout ça. Du moment qu'ils sont sous la pente de l'orgueil, en plus sous couleur de zèle pour Dieu, ce n'est pas un problème. Il les laisse tranquilles, en paix, fausse paix. Il faisait dire, je crois que c'est le curé d'Ars, disait le curé d'Ars, que le plus grand malheur pour les chrétiens, c'est de ne pas être tenté. Parce qu'il y a lieu de croire que les démons les regardent comme lui appartenant. Donc attention. Des moments tranquilles comme ça, où toujours l'impression que tout baigne, des moments où le démon nous fait glisser sur une pente d'orgueil tranquillement, puis c'est le bout du chemin sera à la mesure de la subtilité de la tentation. Par contre, quand on cherche à remonter vers Dieu, qu'on est sur une pente progressante, c'est là qu'il sort ses griffes. On voit bien chez les personnes qui se préparent au baptême et tout ça, à quel point elles sont attaquées et tentées. Donc, il faut pas voir dans la tentation, dans le fait qu'on ait des pensées obsessionnelles éventuellement, des choses terribles. Il faut pas voir dans cela le signe qu'on se serait éloigné de Dieu.
Oui, tout à fait.
Une tentation peut en cacher une autre. T'as mis cet exemple, voyez, pour bien vous aider à distinguer emprise et influence. J'avais un ami, il est parti aux États-Unis, un prêtre qui était assez charismatique et qui semblait avoir un certain charisme de délivrance par rapport aux malins, et puis aussi un charisme de guérison. Et il allait aux États-Unis, il a une communauté américaine très charismatique à l'américaine, qui depuis 2 ans accompagnait un homme qui était à la fois alcoolique et avec des problèmes d'emprise démoniaque. 2 ans d'accompagnement, ils n'y arrivaient pas, lui arrive, et puis par sa prière, en tout cas, il sent que la personne a été guérie à la fois de l'alcool, guérison, et en même temps de ses emprises démoniaques. Tout le monde applaudit, lui-même parlait de ça comme vraiment une grande victoire. 6 mois après, il s'est suicidé. Un train en cache un autre. C'est-à-dire qu'il y avait une faille plus profonde que le problème. Pourquoi il était sous emprise ? Peut-être parce qu'il avait fréquenté une voyante et tout ça, mais bon, truc bête sans finalement grande importance morale. Mais au fond de lui-même, il y avait sûrement une autre tentation de désespérance profonde. Peut-être le fait qu'il soit accompagné, qu'il s'occupe de lui, lui donnait encore le sentiment d'exister. En tout cas, il y avait une faille profonde au niveau de la confiance en Dieu, ça on peut le dire quand même. Et peut-être aussi en même temps psychologiquement un état dépressif latent, enfin bon, tu vois. Mais en tout cas, ils n'ont pas vu la tentation. Ils ont vu le gros machin, alcool, les emprises démoniaques, et on se focalise là-dessus, on pousse tous dessus, oui. Mais le péché originel, c'est pas ça. La faille première, c'est pas ça. Le vrai combat, c'est d'abord celui de la foi et de l'espérance. Donc si on mène pas toujours et d'abord ce combat-là, il ne faut pas s'étonner d'avoir des fausses victoires. C'est ce que je vous disais au début. Dans l'accompagnement des personnes, de faire attention. De ne pas se tromper de combat. Parce que si on reconstruit la personne sur un terrain miné, au niveau du cœur profond, au niveau de la foi et de l'espérance, ça aboutit à un écroulement complet ensuite. C'est peut-être en ce sens-là, vous voyez, qu'il faut aussi entendre quand Jésus dit que on a chassé le démon et puis il revient avec cet autre. C'est-à-dire, si on n'a pas trouvé la vraie faille, au niveau spirituel, au niveau cœur, au niveau de sa foi, de son espérance, de sa relation à Dieu, eh bien on peut de fait multiplier les exercices, on s'aperçoit que il revient, et il revient en plus à la charge. Donc c'est pour ça que déjà je peux dire que les problèmes d'exorcisme sont jamais le fond du problème. Si vous pouviez comprendre ça face à toutes les personnes que vous rencontrerez, et je pense qu'on en rencontrera de plus en plus des gens sous emprise démoniaque, je suis de plus en plus convaincu que c'est jamais le fond du combat. Et qu'il ne faut absolument pas se centrer là-dessus. Ce serait vraiment tombé dans le piège du malin. Je me fais bien entendre, bien comprendre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.